Je vais essayer de faire un résumé, mais avec quelques illustrations de mon propre parcours, quelques réflexions qui me sont venues j'ai quand même dire un mot, c'est que j'ai travaillé 18 ans dans des banques, voilà. Essentiellement aux États-Unis. Voilà, nul n'est parfait. Et ma formation n'était pas du tout en sciences économiques, elle était en anthropologie économique, qui est bien entendu une toute autre tradition, et où on n'est pas du tout soumis à la dictature de Chicago, c'est même pas nécessairement même ce que c'est. Et donc, quand on aborde des phénomènes économiques et financiers, on le fait avec la boîte à outils des gens qui ont fait de l'anthropologie économique, qui a deux sources essentiellement. Il y a le Hongrois Karl Polanyi et l'école qu'il avait créée autour de lui, et en France, la tradition durkheimienne, puisque c'est Marcel Mauss avec son essai sur le don qui a lancé la réflexion. Et donc, il y a deux éléments principaux en anthropologie économique. Donc, je vais ajouter aussi Malinowski, bien sûr, le Polonais qui a fait Malinowski, Bronisław Malinowski, qui a fait carrière en Grande-Bretagne et qui est à la London School of Economics et qui a modifié entièrement la science anthropologique britannique. Il en a fait, il a participé au mouvement d'en faire une science véritablement. Et ses travaux sont essentiellement sur la Kula, qui est un système de dons qui fonctionne aussi plus ou moins comme c'est les éléments à partir duquel un anthropologue peut entrer dans la finance et dans les importants. Ma première constatation, c'est une constatation de terrain, c'est la grande étanchéité, et je vais revenir là-dessus, je vais définir un peu plus exactement ça par la suite, mais quand même la grande étanchéité entre le monde de la recherche de finance, qu'elle soit universitaire ou à l'intérieur des business schools, des écoles de gestion, de management, et ce qui se passe véritablement à l'intérieur des banques. Il y a un domaine qui fait ça, c'est la presse financière. La presse financière. Les meilleures discussions que je vois sur ce qui se passe véritablement dans la finance, je les vois, sans doute comme vous, dans le Wall Street Journal, dans le Financial Times, sur le site de l'agence Bloomberg, et si vous êtes familier de ça, en particulier sur le site Alphaville du Financial Times, où des véritables discussions ont lieu sur ce qui se passe à l'intérieur des banques. C'est, je dirais, véritablement là l'agence qui a lieu. Alors, comment est-ce que c'est le monde communique? Eh bien, l'actualité nous en parle beaucoup, c'est par les fuites, bien entendu. Parce que la connaissance à l'intérieur des banques, bien entendu, c'est une connaissance orale, donc on évite de la mettre sur papier. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux commerciaux. Et donc, quand vous avez une idée géniale à l'intérieur d'une banque, parce que vous avez une cellule recherche, et que vous dites à votre patron, il faut absolument qu'on fasse un article là-dessus, il ne dit surtout pas, il ne faut pas que la concurrence sache ce qu'on est en train de faire. Donc, là, étanchéité, ce qui se passe dans les banques et ce qui se passe dans le monde extérieur. Une excellente illustration de la distance entre les deux, c'est par exemple tout ce qui est écrit sur la création monétaire. Parfois même à l'intérieur des banques centrales, il y a un fameux article de la Banque d'Angleterre qui parle de la création monétaire, et à l'intérieur des banques, on sait que dans le système financier, il y a assez d'argent qui circule, qui a des sommes phénoménales, et qu'il n'est jamais nécessaire de créer de l'argent au niveau des banques commerciales. Bien entendu, les banques centrales créent de l'argent, mais pas les banques commerciales, il y en a assez partout. Sauf les cas, bien sûr, de risque systémique où tout le monde s'écroule parce que tout le monde essaye d'avoir accès au marché à des moments où ce n'est plus possible et où des trous d'air se sont créés à l'intérieur des marchés. Donc, première remarque, deux mondes qui fonctionnent de manière relativement distincte. Mais, bien entendu, il y a infusion des modèles produits par les économistes, par les financiers théoriciens, à l'intérieur même des banques. Mais là, quand ils fonctionnent adaptés au savoir empirique qui fonctionne à l'intérieur du lien, qui circule à l'intérieur des banques. Pourquoi? Parce que une banque, c'est une firme qui essaie de se survivre, et donc on ne peut pas prendre les modèles tels qu'ils sont, il faut les adapter à la réalité telle qu'elle est. Le meilleur exemple, bien sûr, vous le connaissez, c'est le modèle de Black-Scholes, modèle de Black-Scholes sur le pricing des options, sur la valorisation des options, et qui fonctionne à l'intérieur des banques d'une manière entièrement différente de celle qu'avait conçue Black et Scholes. Scholes ayant eu un prix Nobel de l'économie, Black était mort de manière prématurément, et donc il n'a pas participé.
Il a été mentionné.
Il a été mentionné. Scholes s'est retrouvé aussi dans Long Term Capital Management, un hedge fund, qui a créé la première grande crise systémique en 1994, ce qui montre quand les professeurs, ce qui passe quand les professeurs d'université essayent de faire le même de la finance pour des catastrophes. Ce n'est pas encore de l'ordre, ce n'est pas encore de l'ordre de la crise de subprime, mais si je me souviens, c'était quand même 6 milliards de dollars qui ont été perdus. Alors qu'est-ce qui se passe avec qu'est-ce qui s'est passé avec le modèle de Black-Scholes? C'est très intéressant. Modèle créé autour de 75, il y a un succès créé, il faut le souligner, à l'intérieur d'une école de management et pas à l'intérieur du système universitaire, tout de suite adopté par le niveau universitaire, au point que quelques mois plus tard, Texas Instruments crée le modèle introduit l'algorithme du modèle. Dans les petites machines à calculer qui commencent à circuler à cette époque-là. Mais que fait le monde de la banque? Il inverse une variable dépendante, la volatilité, il en fait une variable indépendante. C'est-à-dire qu'on va parler, on va se jeter comme ça, à l'intérieur de ça, le marché, la volatilité implicite, comme étant, qu'est-ce que tu penses, 20%. Allez, aujourd'hui, on fait 20%, etc. Alors qu'à l'intérieur du modèle, c'est une variable dépendante, elle est calculée à partir du comportement du marché, bien entendu. On prend le modèle universitaire, mais on en fait autre chose, pour que ça marche. Autre exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, sur l'influence des marchés à terme sur les marchés au comptant. J'ai une discussion, je ne sais pas, peut-être avec quelqu'un qui se trouve dans la salle d'ailleurs, ici, à un certain moment, sur... est-ce qu'il y a davantage d'influence du marché au comptant sur le marché à terme ou du marché à terme sur le marché au comptant? Et je dis non, c'est le marché à terme qui définit le marché au comptant. Et nous avons une discussion, la personne nous revient en disant, mais vous savez quand même bien que les deux modèles pour le calcul au comptant et à terme sont des modèles distincts et que par conséquent, il y a une nécessité d'ordre théorique pour le terme de se définir à partir du comptant. Et alors je finis par lui dire, mais dans toutes les salles de marché, il y a les deux desks l'un à côté de l'autre, le comptant et la terme, et le type qui est, ou la dame qui est au marché au comptant, demande à celui à terme, qu'est-ce que je mets à l'intérieur du comptant. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Et ça, mais ça, on ne peut pas le savoir si on n'est pas entré dans la salle des marchés, si on n'a pas vu des tas de gens qui faisaient ça devant soi. Alors, dans le cas de Scholes, on lui pose la question, c'est Donald McKenzie. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, si vous n'avez pas lu, il faut absolument le lire. An Engine, Not a Camera. Comment? Oui, c'est ça, voilà. Que fait Donald McKenzie? Il est sociologue dans la mouvance de Latour, si vous voyez le genre de sociologie de la technique. Il interroge les prix Nobel. Il interroge les prix Nobel par interview sur ce qui se passe. Alors, il pose la question, en particulier à Scholes, il lui dit, mais vous savez que le modèle est faux, en particulier qu'il y a ce qu'on appelle le SMITE, vous utilisez ça, c'est-à-dire que si on utilise le modèle comme il a été prévu par Black & Scholes, il y a des anomalies, il y a des valeurs différentes pour la volatilité selon le SRITE, le prix d'exercice, voilà, à l'intérieur de l'option. Et que lui répond Scholes, il lui dit, mais je suis tout à fait au courant. Alors l'autre lui dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas corrigé? Parce que si je l'avais corrigé, j'aurais remis entièrement la théorie des marchés efficients. Donc voilà, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche tout à fait inverse, bien entendu, à celle de la science, où quand les anomalies apparaissent à l'intérieur de la réalité dans les armes. Par des faits, je ne parle pas des faits alternatifs, mais des faits techniques sur lesquels on peut se mettre d'accord, on modifie le modèle. Et là, non, on modifie le modèle pour, et là le mot dogme, je crois, a été utilisé, c'est vous qui avez utilisé le mot de dogme pour le. Voilà, ce que je fais, il faut respecter le dogme, et par conséquent, comme dans les discussions scolastiques au Moyen-Âge, il faut pouvoir expliquer la transubstantiation du sang du Christ en bas, et tout le reste va tourner autour, parce que sinon, voilà, c'est l'hérésie. Alors, mais dans sa pratique quand même, alors, à Mackenzie, Scholes explique, oui, mais dans ma pratique, je modifiais le modèle quand même, quand je l'utilisais moi-même. Et là, je tombe de ma chaise, parce que moi, j'ai aussi utilisé dans les banques ce modèle, et pour l'adapter, pour ne pas avoir cette inversion de deux variables, qui est quand même une hérésie, là, du point de vue scientifique, je me suis dit, il y a un paramètre qui manque. Voilà, il y a un paramètre qui manque, et le paramètre qui manque, c'est très facile, il faut l'ajouter, c'est le paramètre du profit du vendeur. Voilà. Ça étonne personne, un commercial n'est jamais étonné quand on lui dit qu'il faut un paramètre pour le profit du vendeur, mais la non-efficience du marché, effet d'arbitrage, le profit disparaît, donc on n'a pas besoin de la variable. Mais dans sa pratique à lui, Scholes, il l'avait ajouté, il le savait. Donc, Mackenzie, oui, il est quand même désemparé parce qu'il voit comment ça fonctionne à l'intérieur de ce système. Même chose, vous avez évoqué tout au départ les titres subprime, le problème de la diversification qui est impliqué par la titrisation, c'est la veuve de Carpentras qui va acheter des petits morceaux de tranches et donc le risque va être entièrement distribué. Au moment où la crise commence, dans le monde, je dirais, qui n'est pas le monde financier, on croit que le risque est distribué, on ne sait pas où il est. On dit qu'on ne sait pas où il est. À l'intérieur du système bancaire, on sait exactement où sont les subprimes. Pourquoi ? Parce que, à l'intérieur de ce système de titrisation, et vous le savez, où il y a des tranches qui ont été déterminées par les calculs des agences de notation en termes de notation, les banquiers qui voient passer des titres subprimes avec la notation triple A, et avec les taux qui sont les taux délirants, c'est parce que à la perso, un emprunteur subprime, on a infligé une prime, le risque de crédit extraordinaire à l'intérieur du taux. Tous les banquiers qui ont vu passer dans la distribution vers le public ces tranches triple A avec des taux de 7% ou de 8%, ils ne les ont pas distribués, ils les ont gardés, on les a mis en portefeuille. Donc, à l'intérieur du domaine, on sait exactement qui étaient les acheteurs et on sait simplement qu'ils n'ont pas distribué ça au public. Donc, on sait là, à l'intérieur, exactement qui c'est. L'offre et la demande a été évoquée et l'approche de Nicolas Boulot pour dire que ce n'est pas un modèle d'offre et de la demande qui rend compte de la formation du prix, mais dit-il, c'est la volatilité. La volatilité. Alors là, je vais quand même, c'est un de ceux que j'ai apporté. J'ai fait ma thèse d'anthropologie que j'ai rédigée en 75-76 à partir des données que j'avais récoltées dans une île bretonne sur la pêche. Et ça faisait partie de mon travail de thèse que j'allais faire un chapitre sur la formation des prix que je voyais devant moi par l'offre et la demande. Et là, ça m'a retardé. Pendant un certain moment, ça ne marchait pas du tout. Il n'y avait aucun rapport entre l'offre et la demande et la formation des prix. J'avais pour 15 bateaux sur une année, j'avais tous les prix qui avaient été obtenus et toutes les quantités qui avaient été distribuées. Et là, c'est une lecture d'anthropologie économique qui m'a permis d'avancer. C'est la réflexion de Polanyi sur le modèle de la formation des prix chez Aristote. Modèle de la formation des prix qui est bourdieusien, pour le simplement le caractériser très facilement, toute transaction, le prix de toute transaction est tel qu'il reconstitue l'ordre social après la transaction tel qu'il était exactement avant. C'est-à-dire, c'est le rapport de force purement et simplement entre l'acheteur et le vendeur, entre l'emprunteur ou le prêteur, qui va déterminer le prix. Et là, avec ce modèle aristotélicien, je n'ai plus terminé ma thèse. Ce livre qui s'appelle Le Prix. Bon, ce n'est pas l'édition originale puisque c'était dans le format habituel. Là, c'est la version de poche. C'est l'ensemble des articles que j'ai écrits dans les années 90 sur la formation des prix. Et là, l'explication n'est pas en termes de volatilité, elle est en termes de rapport de force. Dans le rapport de force, une des composantes, c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Mais c'est une des composantes. Et c'est d'ailleurs intéressant quand on retourne à la théorie initiale de la formation du prix en fonction de l'offre et de la demande chez Cournot. Je suis allé voir ça. Il est beaucoup plus modeste. Il n'est pas du tout. D'ailleurs, il présente son modèle. Il dit que c'est probablement l'offre et la demande qui détermine le prix. Mais il dit aussitôt. Il y a des tas de cas où il est évident que ce n'est pas le cas, puisque si le diamant était en grande quantité, ben personne ne l'achèterait. Et parce qu'on sait, voilà, c'est-à-dire qu'il. Mais ça a été pris de manière dogmatique, et comme j'ai cherché dans la littérature, il y a très peu de tentatives empiriques de vérifier la loi de l'offre et la demande. J'ai été étonné ensuite, en travaillant dans le monde de la finance, et ça c'est la deuxième partie du livre, que ce modèle aristotélicien en termes de rapport de force, il fonctionne tout aussi bien dans la finance. J'ai pas lu le livre de Boulot, mais je vois mal comment la volatilité en tant que telle, qui est en fait une distance parcourue à l'intérieur du prix, comment elle pourrait déterminer le prix, puisque c'est une variable d'un autre ordre que celui qui est formulé. Enfin, je m'aventure parce que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Alors, je conclue là-dessus. Vous savez, le tournant sans doute qui nous a donné l'école autrichienne et l'école de Chicago, c'est bien sûr la querelle des méthodes de Karl Menger, où il démolit von Schmoller, qui était donc à la tête du courant dominant, le courant historique dans l'économie, en disant que l'économie c'est quelque chose de trop compliqué, il y a trop d'éléments, c'est quelque chose qu'il faut observer et qu'il faut aborder par une méthode de type historique, c'est-à-dire une méthode globale. Et d'une certaine manière, ce que fait l'anthropologie économique, c'est un peu ça, puisque vous savez, ce qui est propre à l'anthropologie économique, c'est de dire les phénomènes économiques et les phénomènes financiers sont insérés à l'intérieur de la réalité la plus vaste, et il est impossible. La tentative de rendre autonome un savoir qui soit purement économique ou purement financier est une tentative qui est vouée à l'échec. C'est peut-être l'hypothèse de base de l'anthropologue, et qui permet sans doute, il a été fait allusion à ça, qui m'a permis effectivement d'écrire en 2005 un livre de 250 pages disant qu'il y aura une crise à l'intérieur des subprimes. Mais il y a de la théorie économique dans mon ouvrage, mais je dirais peut-être 10%. Tout le reste, c'est ce qu'on appellerait de la sociologie, de l'anthropologie, de la réflexion de type psychologique. Ce n'est pas. C'est ça, bien entendu, qui a empêché les économistes dans leur quasi-totalité, à part M. Rubini, etc., de prévoir cette crise, parce qu'une vue autonome des phénomènes financiers et économiques comme autonomes ne permet pas de voir une crise comme des subprimes. Il fallait faire comme je l'ai fait, aller voir dans le registre des faillites personnelles, il fallait aller voir dans les recensements qui étaient les gens qui empruntaient, etc. Si on ne faisait pas ça, il était impossible de voir cette crise arriver. Alors, je termine sur une constatation. Notre problème à tous, personnes qui ont été dans la finance, etc., c'est que, en fait, nous n'avons pas de véritable levier sur ce qui se passe à l'intérieur de la finance. Même les gens qui travaillent, je veux dire, au niveau technique dans les banques, ce qui est mon cas, même quand ils arrivent, je veux dire, en dessous du plafond de verre, c'est au-dessus du plafond de verre que la finance a véritablement lieu. Et là, ni la recherche universitaire, ni même les gens bonnes volontaires à l'intérieur du système bancaire n'ont beaucoup de pouvoir. C'est un petit groupe, et je ne sais pas si vous êtes familier de cette étude faite par Battiston et son équipe à Zurich, à l'École Polytechnique de Zurich, où il montre que je crois que c'est 174 entreprises au monde représentent 40% de l'économie mondiale. Si on double le chiffre, on arrive à 70%. Et ce que leur analyse montre, c'est que par rapport à ces chiffres de 147 et de 270, si j'ai bon souvenir, le nombre de personnes qui prennent les décisions est encore plus petit que cela, parce qu'ils retrouvent les mêmes dans les différents conseils d'administration. Et que donc, je dirais, la théorie complotiste populaire, en disant qu'il y a quelques personnes qui tirent les ficelles, a été démontré mathématiquement, de manière empirique, sur des milliers de données, par des ingénieurs de l'École polytechnique de Zurich. Voilà.
Merci beaucoup. Je crois que...